Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast du blog Secrets de mannequin. Je suis Nathalie Ray, mannequin professionnelle, et aujourd'hui nous allons continuer à parler du livre Jamais assez maigre de l'ex-top modèle Victoire Masson d'Auxerre. Dans la première partie du podcast, nous avons vu comment Victoire Masson d'Auxerre a débuté, avec notamment les directives de son agence pour lui donner toutes les chances de réussir en tant que mannequin couture. Comme Victoire est très bonne élève, elle va appliquer ses conseils à la lettre et sa carrière va vite décoller. Elle intégrera en quelques mois le top 20 des mannequins les plus demandés. Dans ce nouveau podcast, je vous invite à plonger au cœur de la Fashion Week. Nous verrons les coulisses des castings, des défilés, des shootings. Nous verrons également les risques que comporte le métier de mannequin couture, avec notamment l'anorexie, qui s'installe peu à peu dans la vie de la jeune Victoire. Et bien entendu, je vous donnerai mon point de vue sur ce livre. Voyons dans un premier temps les castings. Le rythme des castings est digne d'un vrai marathon. Victoire passe entre 12 et 18 castings par jour. D'autre part, à New York, il lui arrivera même de devoir se rendre à un casting à 22 heures. Victoire découvre l'attente interminable, la compétition, la dureté des castings et le côté inhumain de certains directeurs de casting. Certains d'entre eux l'ignoreront délibérément durant le casting, puis demanderont ensuite à son agence pourquoi donc elle n'est pas venue au casting. Heureusement, il y a également des castings où tout se passe bien et où les mannequins reçoivent même un petit cadeau. Voici la réaction de Victoire après avoir reçu un tote bag en cadeau. Dans ces castings où nous attendons debout, ou assises par terre, pendant des heures, et où la plupart des gens qui nous reçoivent nous interpellent d'un « Next !» parfois accompagné d'un claquement de doigts, sans même nous gratifier d'un regard ou d'un sourire, une attention, même minuscule, devient un vrai cadeau. Fidèle à son éducation et à ses valeurs, Victoire va être très humaine avec ses collègues et les réconforte quand elle le peut, ce qui ne plaît pas du tout à son scout. Voici les mots de Victoire. « Je me suis même fait engueuler par Seb quand les filles lui ont rapporté que j'étais trop gentille pendant les castings et que j'avais des conversations avec les mannequins des autres agences. » Notons par ailleurs que Madeleine et Olympe, les deux collègues de Victoire qui s'habillent en 36, ne réussiront pas à perdre du poids et atteindre la taille 32. Elles devront donc rentrer chez elles bredouilles, car pas assez maigres pour pouvoir défiler. Voyons à présent les défilés. Les efforts de Victoire sont vite récompensés. En effet, Victoire rencontre rapidement du succès et commence très vite à faire ses premiers défilés. Elle découvre toutes les équipes qui travaillent dans l'ombre. Les coiffeurs, maquilleurs, manucures, sans oublier les indispensables habilleurs qui aident les mannequins à changer de tenue en 2 minutes, sans tâcher la tenue ou défaire la coiffure. Une fois sur scène, tout se passe très vite, si vite qu'on a envie que cela recommence. Victoire aime beaucoup les défilés. Voici ce qu'elle dira après son premier défilé. « Je suis pleine d'une joie immense. Je suis heureuse d'être là. J'aime ce monde, j'aime la mode, j'aime la terre entière. » J'aime ma vie. Je voudrais qu'elle soit remplie à ras-bord de moments comme celui-là qui ne ressemble à rien de ce que j'ai pu ressentir jusque-là. Waouh, c'est incroyable, magique, unique. Victoire défilera à New York, Milan et Paris. Elle est fière d'avoir la taille de confection requise pour pouvoir défiler dans la capitale française. Je la cite. Pour les défilés ici, c'est 32, point final. Et Paris, pour un top modèle, c'est LE centre du monde, le centre de la mode, le truc à ne pas rater. Victoire aura la chance de faire de belles rencontres et de se faire remarquer par les personnes influentes du milieu. Voici un extrait du livre. J'ai eu la chance d'être remarquée par Rachel Marsh, un des plus influents directeurs de casting du milieu. Chaque année, au début de la saison, il choisit 2 ou 3 new faces qu'il prend sous son aile pour en faire des tops. J'ai fait partie de son choix. J'ai donc participé à sa demande à tous les castings des créateurs pour qui il travaille. Et il y en a beaucoup. À chacun de ces castings, Rachel Marsh me salue par mon prénom, avec un parfait accent british et un sourire encourageant. Il a vraiment l'air d'avoir confiance et de croire en moi. Il me présente aux créateurs comme la pépite de l'année, avec beaucoup d'affection. Victoire gardera également un excellent souvenir de son casting avec Ralph Lauren. Merci encore d'être venue. Bonne journée, mademoiselle. Je sais, c'est idiot, il ne s'est rien passé d'extraordinaire, mais je n'en revenais pas. C'était presque incroyable d'être traité si gentiment. On peut citer également la rencontre avec Vanessa Bruno, Phoebe Philo, de chez Céline, Philippe Lim, l'équipe de chez Paul & Joe, qui seront de très beaux moments dans la carrière de Victoire. Entre deux défilés ou deux castings, les mannequins peuvent parler parfois beaucoup. Victoire sympathisera avec plusieurs mannequins, dont Charlotte, la gagnante du concours Elite de 2005, qui lui dira les choses suivantes. Le monde de la mode, c'est vraiment la roulette. La plupart des filles travaillent dur, vraiment dur, pour pas grand-chose. Quand tu signes un beau contrat avec une grande marque, tu crois que tu touches le jackpot ? Pas du tout. Bien sûr, c'est beaucoup d'argent, mais il va surtout aux agences et au remboursement de tes frais. Au bout du compte, il te reste 10% de la valeur du contrat à peine. Le seul moyen de bien gagner sa vie est de devenir égérie d'une grande marque. Mais c'est compliqué, la concurrence est rude. Charlotte explique aussi que 3 ans après ses débuts, elle s'est permis de prendre 5 kilos. Et elle a été immédiatement punie et a dû tout recommencer comme une débutante. C'est la guerre, Victoire. Ce monde-là, sans pitié. Dans les coulisses d'un défilé, une mannequin slave informera Victoire que les filles russes réputées compétitrices n'ont en réalité pas le choix. Être mannequin est leur unique chance de sortir d'un quotidien sans espoir. Un autre jour, Victoire sera surprise de ce témoignage d'une de ses collègues sur l'âge des mannequins. Elle m'a avoué à mi-voix qu'elle devait mentir sur son âge. Depuis qu'elle annonçait 20 ans, au lieu de ses 27, tout le monde l'a trouvée beaucoup plus jolie. Victoire reste aussi interdite devant cet autre témoignage effrayant. Elle m'a aussi raconté à voix basse, parce qu'on ne parle pas de ces choses-là, que lors d'un de ses défilés de New York, une fille était morte dans les coulisses. Elle a marché comme prévu, et quand elle est arrivée en backstage, elle s'est écroulée. Les pompiers sont venus, mais ils n'ont rien pu faire. Crise cardiaque. Crise cardiaque ? À 17 ans ? Nous savions toutes les deux, comme tout le monde, qu'aucune fille ne mangeait à sa faim pendant les défilés. On voit donc clairement que pour réussir, les mannequins sont prêts à tous les sacrifices. D'autre part, les mannequins n'osent pas parler, de peur d'être renvoyés. Pour Victoire, le succès est au rendez-vous. Grâce à son extrême maigreur, 47 kg pour 1m78 à son arrivée à New York, soit 9 kg de perdu, Victoire est plébiscitée par le monde de la mode. À la fin de son premier défilé, tout le monde la veut, que ce soit à New York, Milan ou Paris, ce qui est très rare pour une débutante. Les photographes postés à la sortie des défilés commencent peu à peu à l'appeler par son nom. Elle signe ses premiers autographes, elle reçoit des critiques sur Internet et aussi des éloges. Le monde de la mode commence à parler d'elle et en quelques mois, elle entre dans le top 20 des mannequins les plus demandés. Son agence italienne va la chouchouter. Elle trouvera un bouquet de fleurs dans sa chambre d'hôtel de la part de son agence à son arrivée à Milan. Au cours de sa première saison, elle fera 22 défilés, une vraie prouesse pour une débutante. On la verra notamment sur le podium de DKNY, Cousteau Barcelona, Philippe Lim, Miu Miu, Léonard, Vanessa Bruno, Alexander McQueen et Céline. Céline est un must, un défilé clé pour un mannequin. Victoire aura l'honneur d'y participer et de défiler devant Karine Rothfeld du Vogue France et Anna Wintour du Vogue américain. Malgré le succès, on ne fera pas de cadeau à Victoire. Elle découvrira que les mannequins sont souvent très mal considérés et déshumanisés. La coiffure et le maquillage ne sont pas toujours une partie de plaisir. Victoire nous raconte son expérience chez Prada lors d'une séance de maquillage-coiffure pour faire des tests pour le défilé. Je la cite. « Je n'avais jamais vu ça. Ils se sont acharnés sur nous pendant 3 heures, sans nous manifester une seule fois la moindre attention. Nous étions vraiment des mannequins, des pantins même, des marionnettes, des poupées, dont on peut tirer et coller les cheveux, tartiner la peau, brosser, frotter, à qui on lève ou on baisse la tête en appuyant sur le menton. La maquilleuse me fait rasseoir violemment sur le fauteuil et il se précipite à 4 sur moi pour étriller la peau de mon visage et m'arracher les cheveux à coups de brosse, au point de me faire venir les larmes aux yeux. On la laissera d'ailleurs repartir avec la coiffure et le maquillage. Et une terrible surprise attend Victoire au moment d'enlever sa coiffure. Je me suis démaquillée en essayant d'y mettre le plus de douceur possible. Ma peau était rouge vif, puis je me suis attaquée au chignon. Horreur ! Quand j'ai voulu me peigner pour enlever toute cette glu qu'ils avaient utilisée pour le faire tenir, une mèche entière de cheveux m'est restée dans les mains. Visiblement, tout le monde était au courant que les produits utilisés sont très mauvais. Mais personne ne dit rien, parce que c'est Prada. On se fait traiter comme la SPA n'accepterait pas qu'on traite les animaux, et tout le monde ferme sa gueule. Non seulement ce passage sera traumatisant, mais en plus la marque ne la sélectionne pas pour son défilé. Seb, le scout de Victoire, n'est pas en reste, et il ne parle pas toujours avec douceur à sa protégée. Voici les propos rapportés par Victoire. « Il va falloir que tu t'y fasses, ma petite. Non mais pour qui tu te prends? T'es juste un mannequin. Tu fais ce qu'on te dit et tu la fermes. » Victoire mentionne également un phénomène relativement courant à la fin d'un défilé. Les invités se sont déversés dans nos vestiaires comme une petite marée humaine pour se repaître à volonté de la vue de nos corps déshabillés, comme si cela faisait partie du spectacle. Selon Victoire, certains top modèles ont un comportement absolument infect et elle se demande au début pourquoi. Puis elle se rend elle-même compte que plus j'étais odieuse et plus ils étaient aux petits soins. J'en étais sûre. J'avais eu 100 fois l'occasion d'observer ce phénomène ces derniers mois. Cette fois-ci, c'était mon tour. Les Fashion Week et leurs défilés laissent peu à peu la place au shooting. Victoire réalise que les photographes ne se rendent pas toujours compte de la raison pour laquelle certains top modèles sont arrivés à leur degré de notoriété. La photographe est contre les mannequins qui font les régimes, mais elle ne se demande pas une seule minute pourquoi c'est moi qui suis là et pas Madeleine et Olympe. Comment je suis arrivée chez Elite et pourquoi son client m'a choisi moi pour qu'elle me photographie. De plus, Victoire découvre avec consternation l'utilisation de Photoshop qui, en quelques minutes, peut enlever ou rajouter des kilos à un mannequin. Je la cite. « En quelques clics, il m'a rajouté des joues, des cuisses, des seins et a effacé les os de mon sternum pour me faire un beau décolleté. » Voilà donc comment cela se passe. Nous, on perd des kilos et des kilos pour qu'ils nous choisissent et qu'ils puissent nous en rajouter à leur gré. Victoire nous décrira son sentiment après une séance photo où elle exprime très bien ce vide que les mannequins peuvent ressentir après une longue journée de shooting. J'ai passé 4 heures à enfiler des vêtements, poser sans mots sur un fond blanc, me changer, recommencer. En sortant de ce genre de séance, je me sens totalement vide, creuse, transparente et dotée d'un QI de cintre. Il a raison Lagerfeld, qu'est-ce qu'on est d'autre finalement ? Parfois les shootings ont lieu en plein hiver. Les tenues sont vraiment très légères. Cependant, on laisse les mannequins patienter des heures par un froid glacial. Je cite « Nous voilà à moitié nus sous le pont, à attendre que les tourtereaux engoncés dans leurs doudounes, leurs gants et leurs écharpes trouvent le temps entre deux mamours de nous prendre en photo. Une fois, deux fois, trois fois. Ce même jour, on oubliera même de commander à manger aux mannequins. À l'heure du déjeuner, les amoureux se font livrer deux repas. Rien pour nous. Après tout, c'est bien connu, les mannequins ne mangent pas. » Afin de se donner toutes les chances de réussir dans cette nouvelle carrière de mannequin, Victoire va suivre un régime très strict, sans se douter une seule seconde que ce régime l'amènera à l'anorexie. Pour être en mesure de rentrer dans du 32 en moins de 8 semaines, Victoire décide de manger 3 pommes par jour. Elle commence rapidement à avoir des maux de ventre. Elle pense d'abord que cela est lié à l'angoisse d'aller à New York seule. Très vite, d'autres symptômes vont apparaître. Elle va commencer à avoir froid, même en plein été, à être extrêmement fatiguée et rapidement essoufflée, comme si elle fumait 2 paquets de cigarettes. Ses règles vont s'arrêter. Elle constatera également un développement anormal de sa pilosité, à tel point qu'elle doit se raser les bras. D'autre part, si lors de sa préparation du concours de Sciences Po, elle avait lu des tonnes de livres, elle n'arrive plus à lire ou à se concentrer plus de 3 minutes d'affilée. Voici son témoignage. J'ai compris aussi que ça ne se fait pas du tout de manger en public quand on est mannequin. Tu dois absolument avoir l'air de ne pas t'intéresser à la nourriture ni à autre chose que la mode. D'ailleurs, ça tombe bien. J'ai arrêté de trimballer le moindre livre ou même un magazine d'actualité dans mon grand sac. Impossible de me concentrer sur un chapitre, un article, un paragraphe. Comme si mon cerveau ne pouvait plus rien ingurgiter. à part la musique d'Alex, qui tourne en boucle dans mes écouteurs. Notons aussi qu'une petite voix maléfique va apparaître et lui répétera sans cesse qu'elle est énorme et qu'elle ne devrait pas manger. Et Victoire culpabilisera dès qu'elle commencera à manger, même de très faibles quantités. Je la cite. « J'ai craqué. Je me suis goinfrée comme une grosse vache. Deux carottes, une pomme et même un morceau de poulet. Je me déteste, je me déteste, je me déteste. » Un peu avant la Fashion Week de New York, Victoire entreprend de se peser. La balance affiche, à ce moment-là, 48,9, soit bien moins que le poids initial de 50 kg que Victoire s'était fixé. Or, elle se trouve encore trop grosse et elle juge qu'elle a du gras à perdre. Elle pèse finalement 47 kg en arrivant à New York et s'habille en 32, ce qui correspond à une taille enfant de 12-14 ans. Au bout d'un moment, Victoire va commencer à utiliser des laxatifs car elle souhaitait se faire vomir mais n'y parvenait pas. Lorsque les laxatifs seront moins efficaces, elle commencera à faire des lavements. Elle ne supporte plus l'idée de manger, je la cite. J'ai mangé un petit morceau de melon blanc que j'avais acheté au marché. Un régal. J'en ai coupé un morceau, puis un autre, puis un autre. Tout le melon y est passé. Quelle conne. Aucune volonté. J'ai pris 3 laxatifs avant de me coucher, en espérant que ça suffirait à compenser mon écart. Je me suis pesée avant de m'allonger. 47 piles. Ouf! Mais je ne serai complètement rassurée que le jour où on me donnera des fringues à enfiler et que je rentrerai dedans. L'état physique de Victoire commence à devenir préoccupant. Voici un autre passage du livre. Je dors de plus en plus mal. J'ai toujours cette impression un peu douloureuse que la peau de mon dos va finir par craquer. Quand je me couche, je sens chacun de mes os, sans parvenir à trouver une position confortable. Et puis mon ventre me fait souffrir constamment. Les laxatifs à haute dose ne parviennent plus à me soulager. Dès que je mange un peu, même un morceau de poisson vapeur ou un quart de melon blanc, j'ai l'impression de gonfler comme un ballon. C'est durant la période des shootings que Victoire va commencer à s'alimenter un peu plus. Or, sa façon de manger est très perturbée. Elle mangera sans cesse et reprendra très vite pas mal de poids jusqu'à atteindre la taille 38. Bien entendu, elle se trouve énorme, monstrueuse, immontrable et aussi incomprise, même par sa famille. Elle fera une tentative de suicide et passera 3 mois de convalescence dans l'hôpital de Garches. Le bilan donné par l'hôpital fait froid dans le dos. Mon bilan était catastrophique. Aménorrhée, hypotension, perte d'une bonne partie de mes cheveux et le squelette d'une vieille dame de 70 ans. Peu de temps après sa sortie de l'hôpital, son agence l'appelle pour lui dire que tout le monde l'attend à New York en septembre. J'ai dit que je pesais 69 kilos. L'agence m'a répondu « Ce n'est pas grave, septembre, c'est dans 3 mois ». Victoire fera le choix de la santé. Elle mettra fin à son contrat et fera les comptes après 1 an chez Elite. Elle s'aperçoit alors qu'elle a gagné plusieurs dizaines de milliers d'euros, mais qu'il n'en reste que 10 000 pour elle. En effet, tout le reste sert à payer les fameuses avances de frais. Taxi, avion, nuit d'hôtel, appartement de mannequin, chauffeur, séance photo, cours de marche, impression de composite, book. 1 an après ses débuts remarqués dans le monde de la mode, Victoire décide, à la place de la prochaine Fashion Week, de reprendre le chemin des études et de réaliser son rêve, à savoir devenir comédienne. Sa famille aura tenté de la soutenir du mieux que possible dans cette expérience qui aurait pu virer au drame. Ses parents appelleront l'agence à de nombreuses reprises. Sa maman ira la rejoindre à Milan, New York. Elle lui permettra aussi de faire ses nombreux castings en voiture à Paris. Son père l'encouragera à poursuivre dans cette voie, car pour lui, il est important d'aller au bout des choses, sans voir que sa fille, devenue malade, souffre énormément et se sent complètement incomprise. On se rend bien compte que les parents sont totalement dépassés par la situation et perdus face à un monde qu'ils ne connaissent pas. Sa mère découvrira avec effroi le corps squelettique de sa fille. « Mais Victoire, regarde-toi, on dirait que tu sors d'un camp. Elle ne voyait pas que j'étais énorme. Je lui ai montré le gras partout. Elle n'arrêtait pas de pleurer. Il faut que tu arrêtes ça, tu es en train de te tuer. » Je ne comprenais pas ce qu'elle racontait. Heureusement, sa famille l'amènera dans la bonne clinique avec un docteur formidable qui lui sauvera la vie et lui permettra d'y reprendre goût. Victoire nous laisse un témoignage à la fois poignant, authentique et courageux. Elle décrit parfaitement ce que tous les mannequins ressentent et nous dresse un portrait sans fard du monde de la mode. Son livre, très bien écrit, se lit facilement et je le recommande vivement à toute personne qui s'intéresse de près ou de loin au milieu du mannequinat. Dans une interview liée à la promotion de son livre, Victoire affirmait souffrir encore de troubles alimentaires. Soyez donc très vigilants si une carrière de mannequin couture vous intéresse. Cela n'est pas sans risque pour votre santé. En ce qui me concerne, une célèbre agence parisienne m'a aussi fait comprendre que si je perdais 2 cm de tour de taille, j'aurais mes chances pour devenir top modèle. Je faisais à l'époque un petit 36 et je ne réalisais pas forcément que 2 cm de tour de taille correspondaient à perdre environ 5 kg. J'ai essayé et fort heureusement, j'ai très vite réalisé que je commençais à développer un comportement anormal avec la nourriture. D'autre part, comme je ne voulais pas arrêter mes études, j'ai tout de suite cessé de m'affamer et de jouer dangereusement avec mon corps. Renoncer à une carrière de top modèle n'est pas un choix facile, car c'est en général le souhait de tous les mannequins débutants que de devenir top modèle. Néanmoins, il est tout à fait possible de vivre de ce métier sans sacrifier sa santé. Il vous suffit de devenir mannequin commercial. Vous aurez ainsi tous les avantages d'être mannequin, sans pour autant mettre votre santé en danger. Pour celles et ceux qui veulent devenir mannequin mais qui ne savent pas comment s'y prendre, j'ai créé un guide entièrement gratuit pour vous aider. Vous pouvez le télécharger directement sur mon blog. Ce guide vous permettra de déterminer votre profil, de savoir où et comment postuler, de déjouer les principales arnaques et d'économiser beaucoup de temps et d'argent. C'est la fin de ce podcast. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à tout bientôt sur le blog Secrets de mannequin.